Le ministre des Outre-mer achève son séjour en Calédonie ce soir. Après avoir passé 8 jours sur le territoire, Manuel Valls repart alors que les participants aux dernières discussions se sont montrés globalement satisfaits des échanges de cette semaine. Les associations étaient mises à l'honneur aujourd'hui sur les communes de Dumbéa et Païta. Des dizaines d'associations culturelles, mais surtout sportives, étaient présentes pour des initiations et des démonstrations. Volodymyr Zelensky espère renouer avec Donald Trump après un échange glacial entre les deux hommes la nuit dernière pour nous à la Maison-Blanche. L'Australie s'est engagée à rester le plus grand soutien financier du Pacifique Sud lors d'une réunion portant sur la sécurité et l'économie au Vanuatu. L'actualité sportive en squash, la finale de l'Open international de l'Olympique de Nouméa se joue ce soir. Les métropolitains Baptiste Mazzotti et Auguste Dussourd s'affronteront pour le titre. Bonjour à tous, bienvenue dans notre journal Info Weekend pour tout connaître de l'actualité en Calédonie, en métropole et dans le monde. Avant de développer tous ces titres, le Haut Commissariat annonce la prolongation des restrictions sur l'alcool, la vente de munitions et les rassemblements dans le Grand Nouméa. Ces mesures de police administrative sont reconduites jusqu'au 31 mars. Pour rappel, les rassemblements, manifestations et cortèges restent interdits sur la voie publique dans les communes de Nouméa, Dumbéa, Païta et du Mont d'Or. Concernant l'alcool, la vente à emporter est limitée à 1 litre par jour et par personne pour les boissons de plus de 22 degrés. L'achat de munitions de catégorie C est limité à 50 par mois et est soumise à une vérification d'identité. Le ministre des Outre-mer doit quitter la Calédonie ce soir. Manuel Valls a passé 8 jours sur le territoire. Un séjour consacré en grande partie aux discussions sur l'avenir institutionnel. Et aujourd'hui encore, il a notamment poursuivi ses entretiens avec les représentants de certains groupes politiques, alors que les discussions s'étaient une nouvelle fois terminées tard au Haut-Commissariat avec les partenaires calédoniens. Michael Gineski.
Hier encore, toutes les délégations politiques s'étaient retrouvées pour poursuivre le travail entamé mercredi dernier. Jusqu'à présent, les délégations avaient essentiellement travaillé en plénière, hormis mercredi après-midi, où le travail s'était poursuivi en bilatéral. Hier après-midi, en début de séance, le ministre des Outre-mer a notamment remis un document aux participants, un document sur lequel les délégations ont travaillé avant de se retrouver ensemble. Un document qui reprend les hypothèses mises en avant par les différentes formations politiques quant à l'avenir institutionnel de la Nouvelle-Calédonie. Si très peu d'éléments ont été dévoilés à l'issue de ces discussions, la majorité des participants a surtout pour l'heure fait part d'une certaine satisfaction, alors que de nombreux sujets ont été mis sur la table. Les délégations se sont globalement montrées optimistes au sujet de la méthode de travail proposée par le ministre des Outre-mer notamment, et de cette première étape d'échange sur les 3 thèmes proposés par Manuel Valls: le lien avec la France, la gouvernance et le nouveau contrat social. Vous avez pu entendre les différentes réactions, aussi bien chez les partisans de la France que chez les indépendantistes dans nos précédentes éditions. Manuel Valls a indiqué à ses interlocuteurs qu'il reviendrait très rapidement en Nouvelle-Calédonie. Pas encore de date officielle, mais ce pourrait être autour du 20 mars prochain.
Il y a une semaine, Manuel Valls s'était notamment rendu au premier jour de son séjour sur le territoire au Sénat coutumier à Nouville. Cette fois-ci, ce sont les représentants de l'institution coutumière qui ont été reçus par le ministre au Haut-Commissariat Charles.
C'est une délégation de 5 personnes qui a franchi les grilles de l'avenue du Maréchal Foch ce matin. Le président du Sénat coutumier, Éloi Goé, était accompagné de représentants des conseils coutumiers. C'était pour eux l'occasion de présenter leur proposition d'évolution de l'institution consultative qu'est le Sénat coutumier. On écoute Éloi Goé.
De niveau, au niveau institutionnel, c'est comment élever l'actuel statut du Sénat coutumier, mais en général à un niveau plus haut pour que ce soit mieux pris en compte, quoi. Le Sénat va passer d'une voie, on va dire, consultative à une voie décisionnelle, quoi. Donc c'est l'idée, on travaille sur cette option-là, l'idée de créer une chambre parlementaire, quoi. Ça va être analysé sur le plan juridique à tous les niveaux, c'est déjà en chantier, pour que dans les nouveaux accords, s'il y a accord, tout ce nouveau schéma va être pris en compte, quoi.
Et autre proposition faite par le Sénat coutumier, celle d'entamer une nouvelle période de transition de 10 ans, avec au terme un référendum d'autodétermination. Éloi Goé espère également la création d'un groupe de travail lors du retour annoncé du ministre à la fin du mois de mars pour travailler sur ces propositions.
Les faits divers avec un blessé dans un accident de chasse ce matin. Ça s'est passé sur la commune de La Foy. Un jeune homme aurait été accidentellement touché par une balle. Son pronostic vital n'est pas engagé, mais la victime a tout de même été évacuée par précaution vers le Médipôle de Coutio, selon les gendarmes.
Vous écoutez Radio Rythme Bleu. À Dimbéa, c'est le 98.
Les associations sportives et culturelles mises à l'honneur ce week-end. Ce matin, c'est Dimbéa qui présentait ses associations à ses administrés à la halle Michel Castex à côté du lycée d'Ikikewe, Charlotte Coulson.
Plus de 60 stands étaient réunis pour faire découvrir leurs activités. C'était notamment le cas de l'association Dimbéa Natation et de sa présidente Manina Tehei.
C'est une belle opportunité de présenter, de promouvoir les sports aquatiques. Et puis notre club, le Dimbéa Natation, qui est un club un peu historique sur la commune. Et puis aussi aujourd'hui spécifiquement, on promeut des disciplines aquatiques qui sont pas trop connues. C'est le water polo et la natation artistique. On a déjà eu des personnes qui sont venues se renseigner. Et puis on a surtout aujourd'hui voulu offrir aussi des séances découvertes au water polo et à la natation artistique pour potentiellement recruter des nouvelles personnes.
Et cette journée, c'était aussi l'occasion de faire découvrir aux petits comme aux grands de nombreuses activités au travers de démonstrations et d'initiations. Une aide bienvenue pour relancer le tissu économique, explique le maire de Dimbéa, Johan Lecourieux.
L'année 2024 est une année très particulière pour tout le monde associatif. Et donc, il est important de relancer de manière très positive après cette rentrée scolaire qui a été réussie sur la commune, de aussi faire une rentrée du monde associatif. Et on voit, il y a beaucoup de monde, beaucoup de fréquentation, donc c'est très intéressant. Et on voit que les associations sont très mobilisées, quel que soit leur secteur d'activité. Donc c'est vraiment ce qu'il faut pour que la commune retrouve ce dynamisme et notamment donne des activités à l'ensemble des jeunes et des moins jeunes de la commune. Aujourd'hui, on a plus de 60 associations présentes sur les quasiment 200 associations qui travaillent et qui œuvrent sur la commune. Donc c'est un beau panel du monde associatif que l'on peut découvrir sur la commune de Dimbéa aujourd'hui.
Et toutes les informations concernant les associations présentes ce matin sous la halle Michel Castex sont à retrouver sur le site internet de la ville.
À Païta, le rendez-vous s'est terminé à 16h à l'Arène du Sud. 25 associations culturelles, mais surtout sportives, étaient présentes.
Au programme, des initiations de basket, de volley, mais aussi de tennis de table. Et pas n'importe comment, grâce à la technologie, les visiteurs ont pu tester le Ping VR.
On propose une application ludique pour les enfants avec un petit robot qui permet de s'amuser, prendre connaissance avec la balle. C'est pour l'initiation, mais le rendu n'est pas le même que sur une vraie table. Mais n'empêche que c'est un outil fantastique pour ceux qui sont habitués. Ça permet d'enchaîner, de travailler certains gestes. Mais ça, c'est pour des confirmés, je dirais. Pour les gamins, oui, c'est très intéressant aussi. Voilà, ils s'amusent.
Hein. Alors, est-ce que ça t'a plu ?
Oui. En fait, j'en ai jamais fait à la télé. Alors, je voulais essayer. J'aime bien le tennis de table aussi.
Et est-ce que vous allez peut-être inscrire votre fils justement au tennis de table ?
Oui, pourquoi pas, s'il veut bien. Mais bon, je suis pas trop pour la télé. Peut-être le vrai tennis de table, ouais, peut-être. Mon fils n'a jamais fait de sport, mais comme il était motivé cette année, allez, pourquoi pas.
Et de véritables tables de ping-pong, oui, étaient bien entendu présentes. Et il était possible de s'essayer à la discipline. Autre association présente, celle du club d'échecs de Païta, Maxime Bouchard, en est le licencié et proposait des initiations.
Il y a pas mal de monde, ça intéresse surtout les jeunes. C'est bien, au moins, on voit que les jeunes s'intéressent à ça. Il y a de tout âge, ça va de 7 jusqu'à 20 ans. C'est bien, au moins, il y a beaucoup de monde qui s'intéresse à ce sport. On essaie de le faire encore plus connaître un peu partout, faire au nord, aux îles, pour faire connaître les échecs. Il y a plein de gens qui découvrent les échecs, comment on fait. On les donne des conseils, comment se progresser, venir au club. Il y en a qui savent déjà jouer et on les donne pour se perfectionner encore.
Une troisième édition du Carrefour des associations qui s'est clôturée à 16h et où était notamment présente la maire de Païta, Marilyn D'Arcangelo.
Les rendez-vous des associations, c'est donc terminé dans le Grand Nouméa, mais ils continuent à Bouloupari demain. Une vingtaine d'associations rejoindront les stands du marché de Tomo pour offrir aux habitants une matinée découverte pleine d'animation. Valentine Toffili, élue en charge des sports et des loisirs dans la commune, nous partage les détails de l'événement.
Habituellement, le forum a lieu le samedi. Et cette année, pour relancer l'activité, on s'est dit qu'on allait relier ça au marché de Tomo qui a lieu tous les premiers dimanches du mois. Donc, on va retrouver à peu près une vingtaine d'associations de la commune, mais pas que. On aura cette année la nouveauté, ce sera la course de Vaha, donc la traversée de Bouraké jusqu'à Tomo. avec une remise de coupe aux gagnants de cette course de Vaha, avec aussi le club de rugby de Dimbéa qui vient faire une petite initiation et une petite troupe tahitienne pour l'animation. Il y a de la restauration sur place, donc on espère qu'il y aura du monde.
Le forum des associations et des animations de Boulou Paris se déroule demain sur la place du marché de Tomo de 9h à 13h. Ce matin, certains Calédoniens ont découvert le monde de la voile. Le Cercle Nautique Calédonien ouvrait les portes de son école située à Port-Plaisance. De 9h à 15h, les apprentis marins ont pu naviguer à bord de J70, des petits voiliers de 7 mètres. Une première expérience pour la plupart des visiteurs rencontrés ce matin.
Initiation voile, c'est-à-dire qu'en fait, le CNC a mis à disposition pour ceux qui veulent des bateaux, on fait un petit peu de l'initiation voile. Donc j'en profite, voilà.
Vous êtes déjà un peu dans le milieu
Pas du tout.
Donc ça va être une première pour vous?
Oui, la voile, oui. Ça devrait aller, mais bon, en même temps, il n'y a pas de vent, donc bon. Mais faut pas se plaindre, on a des bateaux à disposition, faut essayer de le faire, voilà.
Faire de la voile, faire une initiation à la voile, puis avec une copine, on s'est dit que ça serait l'occasion de tester un petit peu la voile. C'est une première, tout à fait.
Qu'est-ce que vous allez faire exactement?
Alors, on va aller sur ces gros bateaux, on va être quatre sur le voilier pour faire une initiation.
On a vu que c'était les journées portes ouvertes, qu'il y avait un certain nombre d'activités ce week-end, donc on n'avait jamais testé la voile, c'était l'occasion de s'initier à un nouveau sport et de profiter d'une belle journée.
Pour ceux qui souhaitent pratiquer ce sport nautique, le CNC propose des cours toute l'année aux jeunes dès 11 ans et aux adultes via des stages ou des week-ends d'initiation. Les informations complètes sont à retrouver sur le site du Cercle Nautique Calédonien. Et puis aujourd'hui encore, de nombreux centres équestres ouvraient leurs portes pour l'opération Tous à cheval, organisée par le Comité Régional d'Équitation de Nouvelle-Calédonie. L'occasion de s'initier au sport et de visiter les écuries. Si vous n'avez pas pu vous déplacer aujourd'hui, pas de panique, l'opération reprend demain dans certains centres équestres. Et autre sortie du dimanche, c'est bien sûr à la place des cocotiers que ça se passe. Le vide-grenier du centre-ville reprend pour la deuxième fois de l'année. Près de 250 stands accueilleront les chineurs sur la place des cocotiers demain de 7h30 à 12h30. Il est 17h57, première pause dans ce journal avant de voir l'actualité nationale et internationale.
Osez devenir. Du 7 au 9 mars, rendez-vous à la Maison des Artisans pour la 18e édition du Salon des Femmes. Venez découvrir plus de 70 exposants et profitez de nombreuses animations gratuites tout au long du week-end. Cette année, de nouveaux ateliers sur l'émancipation des femmes seront organisés en partenariat avec la Province Sud. Témoignages, expositions, tables rondes ou encore des courts-métrages. Programme complet sur la page Facebook pacificfair.nc.
Entreprise, cabinet juridique, collectivité, vous souhaitez être lu, être vu, confiez vos annonces légales au site internet rrb.nc. Contact annonceslegale@rrb.nc ou au 25 46 46. Toute l'info en trois lettres, RRB.
Et la suite du journal avec vous, Léana Colombo.
Et à la une de l'actualité internationale, ce clash inouï et cette visite écourtée de Volodymyr Zelensky à Washington. Un accord sur l'exploitation des minerais en Ukraine, c'était l'objet de la rencontre entre Donald Trump et le président ukrainien. Rencontre qui a finalement tourné au règlement de compte à propos des négociations de paix avec la Russie. Une scène inédite dans l'histoire de la diplomatie. Retour sur les faits pour Europe 1 avec Mayalène Trémollet.
C'est un échange de deux heures qui s'est transformé en passe d'armes historique au bureau ovale. Face à une nuée de caméras, Donald Trump, en colère, menace son homologue ukrainien de le laisser tomber s'il n'accepte pas un compromis avec Vladimir Poutine et va jusqu'à l'accuser de manquer de respect dans le bureau ovale à la nation américaine.
Vous n'êtes pas dans une bonne position. Vous n'avez pas les cartes en main maintenant. Vous pariez sur les vies de millions de personnes. Vous pariez sur une troisième guerre mondiale. Et ce que vous faites est très irrespectueux pour le pays, pour notre pays.
Malgré un climat de tension extrême, le président ukrainien ne transige pas, tient son cap et clame qu'il refuse de négocier avec Vladimir Poutine, qu'il qualifie de tueur, provoquant la colère de Donald Trump qui accuse de son côté Volodymyr Zelensky de ne pas être prêt pour la paix. Face à l'ampleur du désaccord, tout le reste de la visite, déjeuner et conférences de presse sont annulées et le président ukrainien quitte prématurément la Maison Blanche, seul et bredouille.
Les deux hommes ont à nouveau pris la parole plus tard dans la journée dans un entretien sur la chaîne américaine Fox News. Volodymyr Zelensky estime ne pas devoir d'excuses à son homologue américain. Il pourra revenir quand il sera prêt à la paix, a dit pour sa part Donald Trump sur son réseau social. Moscou a également réagi à cette altercation. La Russie estime que Donald Trump a fait preuve de retenue face à, je cite, l'ordure Zelensky. Les dirigeants européens, dont Emmanuel Macron, ont apporté leur soutien à l'Ukraine. L'actualité dans les Outre-mer, fin de l'alerte rouge sur l'île de la Réunion après le passage du cyclone Garance. L'île a été durement marquée par le passage du sinistre qui a fait 3 victimes. Avec la levée du confinement, les habitants vont désormais découvrir l'étendue des dégâts. Il y a quelques heures, la préfecture annonçait encore 847 personnes accueillies dans des centres d'hébergement d'urgence, 182 000 foyers sans électricité, 171 000 sans eau et 134 000 sans Internet. En métropole, le 7e art à l'honneur, Jacques Audiard, grand vainqueur des Césars qui se sont déroulés un peu plus tôt dans la journée pour nous. À l'occasion de la 50e cérémonie, sa comédie musicale Emilia Pérez a reçu 7 récompenses, dont celle du meilleur film et la meilleure réalisation. Parmi les autres films récompensés figure l'histoire de Souleymane avec 4 récompenses. Retour sur cette soirée avec Caroline Baudry pour Europe 1.
Avec 7 trophées pour son film musical Emilia Pérez, Jacques Audiard ajoute 3 Césars. Meilleur film, meilleure réalisation, meilleure adaptation à son long palmarès. Quand il monte sur scène, il devient l'une des personnalités les plus récompensées de l'histoire des Césars.
J'ai peur que vous me preniez en grippe, en fait. J'ai envie de faire l'intello, je vais citer Winnicott. Winnicott, psychiatre anglais. Le plaisir de se cacher, la terreur de ne pas être découvert. Merci de m'avoir trouvé.
Le César du meilleur acteur revient à Karim Leclou pour son rôle de père d'adoption dans le roman de Jim. Un hommage à tous les gentils, a lancé l'acteur de 42 ans.
Et ça m'a fait du bien de rencontrer un personnage avec lequel la gentillesse ne rime pas... En tout cas, la gentillesse n'était pas vue comme une bêtise. De ne pas s'imposer par la force... mais juste par leur qualité, leurs compétences, je trouve ça toujours admirable.
C'est Tavzi Herzi qui incarne une matone dans le film Borgo qui remporte celui de la meilleure actrice. Les cartons populaires, Le Comte de Monte Cristo et L'Amour Ouf qui étaient en tête des nominations ont finalement été boudés. Le premier se contente de César technique, l'autre du meilleur second rôle.
L'actualité dans le Pacifique, à Port Vila, où il était en voyage officiel, le ministre australien chargé du développement international et des affaires du Pacifique, Pat Conroy, a rencontré le nouveau premier ministre du Vanuatu, Jonathan Napat. C'est la correspondance de Jean-Pierre Zajac.
Les entretiens de Port Vila ont abordé des thèmes désormais classiques, tels que sécurité et développement économique. Pat Conroy a profité de l'occasion pour offrir à Jotam Napat un soutien budgétaire direct d'un montant équivalent à 230 millions de nos francs, soutien qui est principalement destiné à aider à la reconstruction de Port Vila suite au terrible séisme du 17 décembre dernier. Par la voix de Pat Conroy, l'Australie s'est également engagée à rester le principal pays donateur d'aide dans le Pacifique Sud. L'Australie sera toujours là pour vous, a-t-il dit, et nous étions là bien avant que d'autres pays, que ce soit les États-Unis ou la Chine, ne s'intéressent au Pacifique. Nous avons discuté coopération économique et sécurité avec l'Australie. C'est pour sa part contenté de déclarer Jonathan Napat à l'issue des entretiens. À Sydney, Jean-Pierre Zajac, RRB.
Allez, 18h04, seconde pause avant de voir tout le sport.
Savez-vous qu'un lave-vaisselle utilise de l'énergie surtout pour le chauffage de l'eau et peu pour le moteur de la pompe de vidange ? Les programmes à faible température comme Eco permettent de diminuer en moyenne de 5% la consommation d'électricité.
Retrouvez toutes les astuces Eco-Conso sur le site EEC. Sur RRB, il n'y a pas de jour sans EEC.
Construisons notre pays, économisons l'énergie.
RRB, nos efforts valent bien un geste fort. Soutenez-nous, faites un don. Par chèque, virement ou en espèces aux 4 rues de Sébastopol. Toutes les infos sur rrb.nc ou sur la page Facebook. RRB, les fréquences aux couleurs de la France.
Tout le sport en 3 lettres, RRB.
La suite du journal et tout le sport, Léana Colombo.
Et à la une du squash avec la finale de l'Open International de l'Olympique de Nouméa qui se dispute ce soir à la salle Picou. On retrouve sur place Mickaël Juneski pour nous faire vivre ce grand rendez-vous de la discipline. Bonsoir Mickaël.
Oui, bonsoir à tous. Enfin, écoutez, cette finale qui vient à l'instant de se terminer ici au complexe de squash de l'Olympique de Nouméa. Une finale véritablement spectaculaire et c'était, eh bien, tant mieux pour les fans de squash qui étaient venus nombreux dans une salle survoltée, un duel qui était très serré entre Baptiste Mazzotti, numéro 2 français, et Auguste Dussourd, 5e au classement national. Et c'est donc Auguste Dussourd qui s'est imposé sur le score de 3 jeux à 1. On a eu droit à une pluie de coups sublime dans la salle Picou durant ce match entre deux membres évidemment de l'équipe de France. Le plus étonnant, c'est que ces deux adversaires métropolitains qui se connaissent très bien évidemment ont joué finalement détendu, sans complexe, sans pression. En fait, ils se sont amusés et ils nous ont amusés au passage, le public qui était là, mais sans rien lâcher non plus pour tout donner pour le titre. Évidemment, ça a donné un spectacle de haut niveau, des échanges assez époustouflants, une véritable leçon à voir pour le grand public. Il y avait de l'acharnement et en même temps de la détente, de la bonne humeur. Bref, un beau cadeau pour tous les fans ici qui étaient présents, tous les fans de squash en Nouvelle-Calédonie. On précisera que dans la petite finale, un peu plus tôt, il y avait un Calédonien engagé, vous le savez, Nicolas Masnay, malheureusement, qui n'a rien pu faire, lui, contre la tête d'affiche féminine, la 7e joueuse mondiale, évidemment, la Malaisienne Siva Subramaniam. Notre meilleur représentant s'est incliné sur le score de 3 manches à 1 pour terminer donc au pied du podium. Voilà donc, on connaît maintenant le nom du vainqueur dans cette finale, Baptiste Mazzotti, Auguste Dussourd. C'est donc Auguste Dussourd qui l'a emporté pour achever très joyeusement cet anniversaire des 40 ans de la salle Picou de Nouméa. En tout cas, vraiment, on a eu droit à une belle ambiance. Je vais voir si l'organisateur il est occupé. On aura le temps évidemment de l'entendre dans nos prochaines éditions. Voilà pour le compte-rendu de ce match qui se déroulait ce soir depuis le complexe sportif de Magenta. Mickaël Juneski, RRB.
Et oui, nous reviendrons bien entendu sur le déroulé de cette finale dans notre édition demain matin à 7h. Encore du sport sur le territoire, la course à la Dorade se déroule ce soir à Dumbéa, une épreuve sur des distances courtes, mise en place par Challenge Organisation. Les premiers départs ont été donnés à 18h. En tennis de table, la coupe d'ouverture Raymond Sens se déroule à Boulary, une première compétition de l'année organisée par le club du Mont d'Or. En force athlétique, lors de la première compétition de l'année qui se déroulait à Dumbéa, la coupe Jean-Claude Coll, on signalera notamment la victoire d'Axel Raymond au classement Open avec un nouveau record personnel au développé couché. Et la dernière épreuve du challenge d'été du club Apnea se déroule également ce soir à la piscine du Wentoro. Enfin, les amateurs de judo se retrouvent au dojo à Magenta pour une cérémonie de début d'année jusqu'à 20h ce soir.
Radio Rythme Bleu. Les bonnes fréquences. À Nouméa, c'est le 100.4.
On passe à présent en revue l'actualité sportive sur la scène nationale et internationale. En MotoGP, un nouveau championnat du monde débute ce soir en Thaïlande. Les pilotes français Fabio Quartararo et Johan Zarco seront encore en lice. On écoute d'ailleurs Johan Zarco.
Je me sens bien. Clairement, oui, pressé d'en découdre parce que c'est la compétition, c'est ce que j'aime. Et le fait de recommencer ici en Thaïlande, alors qu'on a quasiment terminé la saison 2024 en Thaïlande, ça fait presque, on dirait, déjà une routine alors qu'on commence l'année 2025. Mais déjà, je pense que si je peux terminer 3e à une course, je ferai un salto, parce que 3e derrière Pecco et Marc, ça veut dire en fait 1er de tous les autres.
La course sprint du Grand Prix de Thaïlande se disputera ce soir dès 19h. Le Grand Prix sera à suivre demain soir à la même heure pour nous. Et le reste de l'actualité sportive sur la scène nationale et internationale, on retrouve pour cela Mickaël Juneski.
Et du football avec la suite de la 24e journée de Ligue 1 et ce duel des extrêmes à venir demain matin. Saint-Étienne, le 16e du championnat de France, recevra Nice qui défend de son côté sa 3e place sur le podium. Match à suivre à partir de 3h pour nous. Ensuite, Ensuite, dès 5h, ce sont cette fois les Lensois qui recevront Le Havre, l'avant-dernier du classement, déjà à la lutte pour le maintien. Coup d'envoi à 5h. Et à 7h05, le début de la grande affiche du week-end. Le Paris Saint-Germain, leader, sera opposé à Lille, 5e. Sur les terrains de rugby, les clubs du top 14 disputeront la 18e journée du championnat de France. La première rencontre opposera ce soir le Stade français, désormais Lanterne Rouge, à La Rochelle, à partir de 12h30. Ensuite, dès 2h30 en simultané à suivre, Lyon-Toulon, Montpellier-Castres, Racing 92, section paloise et Toulouse-Vannes. À 7h, Perpignan accueillera l'UBB et lundi matin, Bayonne recevra Clermont. Du tennis, avec à suivre ce week-end également la finale du tournoi de Dubaï. Elle opposera la nuit prochaine le Canadien Félix Auger-Aliassime au Grec Stefanos Tsitsipas. Et en golf, le Français Mathieu Pavon est en forme sur le deuxième tour du classique de Palm Beach, étape du PGA Tour. Il pointait ce matin à la deuxième place du classement général à un coup du leader, l'Américain Jake Knape. Enfin, on rappellera cette belle performance en athlétisme aujourd'hui. La superstar suédoise Armand Duplantis qui a amélioré son record du monde du saut à la perche pour la 11e fois de sa carrière. Il a passé la barre des 6,27 m lors de la 10e édition du All-Star Perche à Clermont-Ferrand. Le double champion olympique et double champion du monde en salle détient le record du monde depuis qu'il a détrôné Renaud Lavillenie et c'est 6,16 m. C'était le 8 février 2020. Le All-Star Perche qui est justement le rendez-vous organisé par le Français Renaud Lavillenie.
Il est 18h11, on passe tout de suite à la météo avant de refermer ce journal.
La météo avec la 7. 6 magasins sur l'ensemble du territoire pour vous accompagner dans tous vos projets. La 7, construire, rénover, aménager.
Et la météo, c'est avec vous, Maxime.
Bonsoir à tous. Et bien, pour cette nuit, et bien, sur le nord, le ciel restera souvent couvert et plus exposé aux précipitations, notamment sur la pointe nord et Belle-Epe, où elles pourront prendre un caractère orageux. Sur la pointe sud, l'île des Pins est marée. Les paquets nuageux circuleront également et pourront donner une petite averse. Entre les deux, les nuages élevés se feront plus nombreux, avec peu ou pas de précipitations. Le vent de sud à sud-est se maintiendra entre 10 et 15 nœuds pour la plupart des régions. Sur l'est, il demeurera variable faible. Sur la pointe nord et Belle-Epe, il sera toujours orienté nord à nord-est entre 5 et 10 nœuds. Et les températures ce soir avoisineront les normales de saison avec 23 à 26 degrés. Demain matin, sur Belle-Epe et la moitié nord de la Grande Terre, le ciel restera souvent gris avec parfois quelques averses orageuses. Sur le sud des Loyautés et le sud, les nuages seront encore très présents en donnant de rares ondées. Ailleurs, le temps restera sec. Le vent d'est-sud-est soufflera de 5 à 10 nœuds, localement 10 à 15 nœuds sur le sud. Et sur la pointe nord et Belle-Epe, le vent de nord-est avoisinera les 10 nœuds.